Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 22 janvier 1963, l'amitié franco-allemande est consacrée par le traité de l'Élysée. Le 14 septembre 1958, à Colombey-les-Deux-Églises, modeste village de la Haute-Marne, se déroule une rencontre historique. Charles de Gaulle, président du Conseil des ministres français, accueille dans sa résidence privée de la Boisserie Konrad Adenauer, chancelier de la République fédérale allemande. Les ministres des Affaires étrangères, Maurice Couve de Murville et Heinrich von Brentano, se voient à la préfecture de Chaumont. Le tête-à-tête de Colombey, les deux églises, constitue un pas essentiel vers la réconciliation franco-allemande. Adenauer, chrétien démocrate, maire de Cologne avant la Seconde Guerre mondiale, s'est opposé au nazisme. Destitué de ses fonctions municipales, il se réfugie un temps dans un monastère avant de connaître la prison, brièvement une première fois en 1943, puis plus longuement en 1944. Élu chancelier le 15 septembre 1949, il gouverne la République fédérale allemande jusqu'à sa démission le 15 octobre 1963. Au sortir de l'épreuve du nazisme, il ancre son pays dans une Europe démocratique. Dès 1951, il implique l'Allemagne fédérale au sein de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, consacrée par le traité de Paris. 6 ans plus tard, il compte parmi les signataires du traité de Rome qui fonde la Communauté économique européenne, la CE. Enfin, en 1954, il adhère à l'idée avortée de la Communauté européenne de défense avant de favoriser l'année suivante la participation de Bonn à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. De Gaulle est au fait de son pouvoir. L'ancien officier, chef de la France libre, après sa traversée du désert durant laquelle il fonde le Rassemblement du peuple français, le RPF, est rappelé aux affaires le 1er juin 1958 dans une France troublée par le drame algérien. Ultime président du Conseil de la 4e République, il devient aux prémices de l'année 1959 le premier président de la 5e République. Au terme de leur rencontre intime et conviviale, De Gaulle et Adenauer sont convaincus de la nécessité de cheminer ensemble vers la consécration de l'amitié franco-allemande. Les rencontres se succèdent. Le 26 novembre 1958, les deux chefs de gouvernement se retrouvent dans la station thermale de Bad Kreuznach en Rhénanie-Palatinat. Le 25 mars 1959, De Gaulle affirme lors d'une conférence de presse que la réunification est le destin normal du peuple allemand. Le 1er et 2 décembre, Adenauer est reçu à Paris. Il est également invité à Rambouillet du 29 au 30 juillet 1960. De Gaulle se déplace à Bonn le 20 mai 1961. Du 20 au 23 juin, Heinrich Lübke, président de la République fédérale allemande, effectue une visite officielle en France. Les échanges s'intensifient durant l'année 1962. De Gaulle et Adenauer se voient le 15 février à Baden-Baden et le 2 juin au palais de l'Élysée. La première semaine de juillet est consacrée à une grandiose visite officielle du chancelier allemand en France. Elle culmine le 8 juillet avec la messe célébrée en la cathédrale de Reims, tant meurtrie durant la Première Guerre mondiale. Adenauer y prononce une allocution dont il convient de retenir les phrases suivantes. « Nous sommes persuadés que les dangers provoqués par la situation de par le monde ne seront surmontés qu'au moment où les peuples libres seront unis et solidaires. Cela, dans une mesure toute particulière pour ces deux peuples qui se trouvent placés l'un près de l'autre au cœur de l'Europe. » Enfin, du 4 au 9 septembre, de Gaulle va à la rencontre du peuple allemand. Au terme de son séjour, il s'adresse à la jeunesse au château de Ludwigsburg par ces mots. « L'avenir de nos deux pays, la base sur laquelle peut et doit se construire l'Union de l'Europe, le plus solide atout de la liberté du monde, c'est l'estime, la confiance, l'amitié mutuelle du peuple français et du peuple allemand. » L'aboutissement de ce long et fructueux parcours survient à Paris le 22 janvier 1963. De Gaulle et Adenauer signent le traité de l'Élysée, complété par une déclaration commune affirmant la réconciliation du peuple allemand et du peuple français. Il établit un rythme de rencontres et crée des organes communs propres à renforcer encore la coopération franco-allemande. Il est prévu que les chefs d'État et de gouvernement se voient chaque fois que cela sera nécessaire et en principe au moins deux fois par an. Les ministres des Affaires étrangères se réunissent chaque trimestre et leurs hauts fonctionnaires régulièrement à Paris et à Bonn. Il est également indiqué que les autorités responsables de la défense, de l'éducation et de la jeunesse ont des relations régulières. Deux commissions interministérielles spécialisées dans la coopération franco-allemande sont constituées. En matière de défense, les deux pays s'attacheront à rapprocher leurs doctrines. Il est aussi rappelé l'importance des échanges entre les deux armées et le travail commun sur les armements. Dans le domaine de l'éducation et de la jeunesse, il est prévu de promouvoir l'apprentissage de la langue de l'autre, l'équivalence des titres et diplômes universitaires, la coopération en matière de recherche et les échanges collectifs de jeunes. Cette dernière disposition jette les bases de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, l'OFAGE. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique littéraire Un jour trois livres qui a été préparée par Emmanuel. C'est Gérard Lenormand qui nous accompagne en chanson tout au long de cette émission. Nous écoutons un titre de 1975, probablement l'un de ses plus grands succès, La Ballade des gens heureux.
Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Il s'endort et tu le regardes, c'est un enfant, il te ressemble un peu. Je viens lui chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Roi de la drague et de la rigolade, rouleur flambeur ou gentil petit vieux, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il veut, tu viens de chanter la balade des gens heureux. Tu viens de chanter la balade des gens heureux.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour trois livres, à commencer par l'ouvrage signé Anna Pic-Goslar aux éditions Robert Laffont, Anne Frank et moi. Voici les mémoires inédites de la meilleure amie d'Anne Frank, survivante de l'Holocauste. À 10h du matin, le dimanche 20 juin 1943, c'est notre tour. Les coups tant redoutés frappaient à la porte. Un officier SS qui demande à mon père d'ouvrir. Alors que nous sortons sous bonne garde, mon regard se pose sur l'immeuble voisin où vivait Anne et je revois la porte de l'appartement fermée, silencieuse. L'année dernière, presque jour pour jour, j'étais allé toquer encore et encore, étonné que personne ne réponde. Anna Pic-Goslar raconte ses années d'amitié avec Anne Frank, leurs jeux d'enfant et leurs rires, puis leur déportation. Elles furent toutes deux déportées à Bergen-Belsen, là où la dernière fois Anna put revoir son amie. C'est la vie d'Anne, mais aussi celle d'Anna, que nous accompagnons dans l'horreur. C'est aussi la reconstruction d'Anna après la guerre, un récit bouleversant et précieux. Anne Frank et moi, d'Anna Pic-Goslar, s'est publié aux éditions Robert Laffont. Stasiland d'Anna Funder aux éditions Héloïse d'Ormesson. Stasiland est le roman de la Stasi, la redoutable police secrète de l'ex-Allemagne de l'Est. Il s'articule autour de quelques personnages réels, victimes ou ex-agents, emblématiques de l'époque. Myriam Weber, 16 ans, détenue pour un interrogatoire plusieurs jours après avoir tenté de franchir le mur. R. Vince, nostalgique du communisme, cette période bénie où tous avaient du travail. Ou encore cet agent qui se faisait passer pour aveugle afin de mieux espionner les suspects à leur insu. Enfin, Frau Paul, séparée pendant des années de son fils hospitalisé à l'ouest au moment de la construction du mur. Ces histoires individuelles nous entraînent au cœur d'un régime totalitaire et nous racontent la folie de ces années Stasi. Elles évoquent une réalité qui dépasse souvent la fiction, un monde où la vie n'était jamais privée, bouleversant et édifiant. Stasiland, c'est signé Anna Funder et c'est publié aux éditions Héloïse d'Ormesson. Je termine cette chronique par l'évocation d'un livre que j'avais déjà eu l'occasion de vous présenter il y a quelques mois, mais qui ressort en édition de poche aux éditions Liana Lévy dans la collection Piccolo, Le fauteuil de l'officier SS de Daniel Lee. Enquête sur la vie d'un nazi ordinaire, avec tout ce qu'il y a de choquant dans cette expression. Des documents enfouis dans un fauteuil pendant 70 ans peuvent transformer un historien en détective, a fortiori s'ils sont estampillés de la croix gammée. Le nazisme est un sujet que l'auteur connaît bien. Pourtant, le nom du propriétaire de ses papiers lui est parfaitement inconnu. Lorsqu'il décide de retracer son itinéraire, il découvre qu'il s'agit d'un officier SS qui, dans les années 1930, a exercé comme juriste à l'hôtel Silber, quartier général de la Gestapo à Stuttgart. Au fil des recherches, l'univers familial de l'inconnu s'esquisse. La branche paternelle, qui a vécu pendant plusieurs générations à la Nouvelle-Orléans dans un climat de haine raciale, les parents qui ont reconstitué à Stuttgart une villa digne de la Louisiane, la femme déclarée apte au mariage par la SS et les deux filles qui ignorent tout du passé de leur père. Peu à peu, se dessine le parcours de l'officier qui a sillonné la France et ensuite l'Ukraine au sein de la Wehrmacht. Son rôle et sa responsabilité dans la machine criminelle du Troisième Reich se précisent dans cette étonnante chronique du quotidien d'un nazi ordinaire. Une quête acharnée de la vérité qui est aussi un puissant révélateur des non-dits et des silences familiaux du narrateur. Le fauteuil de l'officier SS, c'est signé Daniel Lee, c'est publié dans la collection Piccolo aux éditions Liana Lévy. Je remercie Thomas qui a réalisé cette émission et c'est en chanson que nous allons nous quitter avec toujours Gérard Lenormand. Nous écoutons un titre de 1976, probablement l'un de ses plus beaux, Michel.
Tu avais à peine 15 ans, tes cheveux portaient des rubans. Tu habitais tout près du grand palais. Je t'appelais le matin et ensemble on prenait le train pour aller au lycée. Michel, assis près de toi, moi j'attendais la récré pour aller au café, boire un chocolat et puis t'embrasser. Un jour tu as eu 17 ans, tes cheveux volaient dans le vent et souvent tu chantais Oh yesterday. Les jeudis après-midi, on allait au cinéma gris voir les films de Marilyn. Michel, un soir en décembre, La neige tombait sur les toits. Nous étions toi et moi endormis ensemble pour la première fois. Le temps a passé doucement et déchu le prince charmant qui t'offrait des voyages dans ses nuages. On m'a dit que tu t'es marié en avril au printemps dernier, que tu vis à Paris. Michel, c'est bien loin tout ça, les rues, les cafés joyeux, même les trains de banlieue se moquent de toi, se moquent de moi. Michel, c'est bien loin tout ça, les rues, les cafés joyeux, même les trains de banlieue se moquent de toi, se moquent de moi. Se moque de moi.
Thank you.